Bonjour, je m'appelle Virginie Larivière et je suis co-porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Juste à temps pour le 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes, le Collectif a produit un outil de sensibilisation qui met de l'avant des données vraiment parlantes sur la pauvreté vécue par les femmes et les inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Dans ce balado, on tente de donner un visage humain à quelques-uns des enjeux abordés dans l'outil. Pour faire ça, on a parlé à des femmes qui connaissent bien le sujet, des intervenantes, mais aussi des femmes qui sont en situation de pauvreté et qui en ont long à dire sur comment la pauvreté et les inégalités se traduisent dans leur quotidien, dans la vraie vie. Pour commencer, on a demandé à Kim Paradis, qui est la directrice générale du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, de nous faire un petit portrait de l'état des inégalités salariales entre les hommes et les femmes au Québec en 2021.
Les femmes sont réellement moins payées que les hommes encore aujourd'hui en 2021 au Québec. Donc, on dit d'une façon générale qu'elles gagnent environ 3 $ de moins que les hommes. Mais ça, c'est en incluant tous les secteurs de travail, syndiqués, non syndiqués. Mais lorsqu'on découpe un petit peu, lorsqu'on fait des analyses un petit peu plus précises, on se rend compte que les femmes gagnent encore moins. L'écart est encore plus grand dans certains secteurs. Et particulièrement lorsqu'on parle des organismes non syndiqués, des entreprises non syndiquées. Donc, l'écart salarial est beaucoup plus grand que les hommes et les femmes. Lorsqu'on parle des personnes qui sont moins scolarisées ou qui n'ont pas de scolarisation, donc qui n'ont même pas un diplôme d'études secondaires, l'écart, c'est là qu'il est le plus grand entre les femmes et les hommes, parce que souvent, lorsqu'on n'a pas de diplôme et qu'on est une femme, là où on retrouve majoritairement les femmes sans diplôme, c'est souvent dans des emplois vraiment au bas de l'échelle, donc au salaire minimum, caissière, vendeuse. Tandis que les hommes, souvent, ils réussissent quand même à se faufiler un petit peu, soit dans un domaine, un domaine plus de construction, sans être apprenti. Il va gagner moins que les autres, mais il va gagner quand même plus que le salaire minimum. Donc, c'est plus facile d'avoir un meilleur salaire pour un homme lorsqu'il n'a pas de scolarité que pour une femme. Et donc, les femmes sont majoritaires d'un point de vue global. Ils gagnent la palme du moins grand salaire au niveau tout ce qui est travail atypique également. Donc, elles sont majoritaires dans le travail atypique, travail à temps partiel, au salaire minimum. Hein, 58 % des personnes au salaire minimum sont des femmes. Donc, tous les emplois au bas de l'échelle, il y a une majorité de femmes qui sont présentes.
Les femmes sont donc plus sujettes à avoir des emplois précaires. Mais au-delà des emplois au bas de l'échelle, on retrouve quand même des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. On a demandé à Kim de nous expliquer pourquoi les écarts salariaux persistent malgré des mesures politiques qui visent à les atténuer, comme la loi sur l'équité salariale, par exemple.
Rapidement, là, si je peux nommer trois éléments, ben, c'est sûr que les femmes travaillent moins que les hommes. Hein? Ça, c'est prouvé au nombre d'heures par semaine. Je pense que c'est un peu plus de moins de 5 heures par semaine. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus paresseuses que les hommes? La réponse est non. C'est parce qu'elles ont souvent une double tâche. Donc, elles s'occupent souvent, elles ont des responsabilités familiales plus importantes que les hommes. Donc, elles s'absentent plus que les hommes du travail. Ça, c'est prouvé. Donc, elles travaillent moins déjà. Il y a la ségrégation professionnelle aussi. Elles sont toujours, elles ne sont pas toujours, mais elles sont fortement concentrées dans le même genre d'emploi. Et ça serait pas mal, c'est pas mal d'être secrétaire ou adjointe administrative. Le problème, c'est que ces emplois-là, dits majoritairement féminins, sont sous-évalués, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas évalués à leur juste valeur et donc ils sont sous-payés, en guillemets. Donc, ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Donc, lorsque je parle de métier majoritairement féminin, on parle d'une concentration de plus de 60 % de femmes. Dans les 5 métiers majoritairement féminins au Québec, on retrouve le plus de concentration. On a bien sûr le secrétariat, donc secrétaire, caissière, vendeuse, professeure et éducatrice à la petite enfance. Donc, déjà, on voit qu'il y a quand même deux métiers qui sont majoritairement au salaire minimum. Donc, ça a un gros impact également. Donc, la sous-valorisation des métiers majoritairement féminins est due, entre autres, à des préjugés qu'on a envers le travail des femmes. Ces préjugés-là, on appelle ça des biais sexistes. C'est souvent inconscient. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais on a des préjugés. Hein? C'est comme dans plein de choses dans la vie également. Mais tout ça ensemble, ces biais-là, ces préjugés-là, on appelle ça une discrimination systémique. Donc, c'est un fait. Les femmes sur le marché de l'emploi actuellement sont encore victimes de discrimination systémique au niveau salarial et c'est renforcé par les préjugés qu'on a envers le travail des femmes. Des exemples de préjugés qu'on peut retrouver, les femmes travaillent moins fort que les hommes. Donc, pourquoi que ces métiers-là, ils seraient payés Pourquoi est-ce que la secrétaire gagnerait aussi cher que le mécanicien? Elle est assise confortablement à son bureau. Là, je caricature, on s'entend. Mais c'est le genre de préjugés qu'on peut avoir. Elles ont un faible niveau de responsabilité. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. L'effort, on ne se le cachera pas, l'effort physique est plus valorisé dans notre société que l'effort intellectuel. Et souvent, les femmes se concentrent dans des postes où on demande moins d'efforts physiques. C'est un fait également. Là, il y a aussi tout l'accès des femmes dans les métiers majoritairement masculins, qui est un autre débat. On ne partira pas sur ce dossier dans ce balado, mais il y a toute une question de culture également. Culture, préjugés, tout ça fait une espèce de marasme qui fait que ben, pour les femmes, c'est difficile d'avoir un salaire équitable envers ses collègues, avec ses collègues masculins. C'est difficile d'accéder à des postes de pouvoir. C'est difficile d'accéder dans des emplois majoritairement masculins bien rémunérés. Hein, je pense au domaine de la construction, entre autres. Et pour pallier à cette discrimination systémique-là au Québec, ben, on a mis en place une loi sur l'équité salariale en 97. Oui, ça a eu un impact. Oui, il y a eu une réduction de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, mais ce qu'on remarque, c'est que ça s'est surtout fait dans les métiers, dans les endroits syndiqués. Donc là où le bas blesse encore aujourd'hui en 2021, c'est dans les entreprises non syndiquées, pour plein de raisons, mais donc c'est là qu'on retrouve le plus grand écart entre les hommes et les femmes.
Kim nous a aussi parlé des difficultés d'accès à l'emploi de certaines femmes et des conditions de travail précaires dans lesquelles elles se retrouvent souvent lorsqu'elles réussissent à s'insérer sur le marché de l'emploi.
Il y a des catégories de personnes qui ont encore énormément de difficultés d'avoir accès, ne serait-ce qu'à un emploi. Je pense entre autres aux personnes issues de l'immigration, particulièrement l'immigration récente. Les personnes en situation de handicap également, c'est très difficile de s'insérer dans le monde, les personnes autochtones. Donc, il y a déjà, quand tu as de la difficulté à avoir accès à un emploi, donc lorsque tu décroches un emploi, c'est souvent un emploi malheureusement au bas de l'échelle avec des conditions de travail très précaires. Donc, dans les milieux non syndiqués, évidemment, le rapport de force est très différent avec l'employeur. Particulièrement lorsqu'on est dans une situation soi-même précaire, donc ça peut être une réfugiée ou une immigrante récente c'est déjà difficile d'avoir accès à un emploi lorsqu'on le décroche, l'emploi, mais on veut le garder. Donc, parfois, on remarque qu'on peut accepter des conditions de travail qui sont très, très, très minimales. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on a la loi sur les normes du travail qui crée un minimum pour tout le monde. Mais c'est quand même pas suffisant. Ça fait longtemps qu'on le nomme. On pourrait avoir plus. Et particulièrement dans les milieux non syndiqués, il y a encore moins de tout ce qu'on appelle la rémunération supplémentaire, donc des régimes de retraite, des assurances collectives. C'est moins fréquent.
Pour mieux comprendre ce que Kim Paradis vient d'expliquer, on a rencontré Anna Maria, une femme qui a immigré au Québec en 2008. Anna Maria nous a raconté comment les choses se passent pour elle du côté de l'emploi et, comme vous allez l'entendre, son parcours professionnel au Québec est parsemé d'embûches.
Depuis 3-4 ans, je travaille avec des conditions qui n'ont pas d'avantages sociaux, pas de capacitation, pas de rien qui peut me former ou développer comme professionnel. Pourtant, j'ai mon diplôme universitaire de l'Argentine et il a été reconnu ici à Québec et au Canada. Ça veut dire que je suis une universitaire, mais je travaille dans des conditions précaires. Alors ça m'a donné l'indice de que je suis dans la frange de pauvreté. Même dans les questions de travail, j'ai réfléchi encore. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va donner plus tard? Parce qu'on dirait que c'est la même situation. Je ne sais pas si ça passe à tous les immigrants, mais peut-être pour la majorité. Par rapport à l'emploi, parce que bien sûr que tout dépend de quel emploi tu as. Dans mon cas, malheureusement, j'ai un diplôme universitaire de prof d'histoire. Et ici, les besoins sont beaucoup plus techniques, beaucoup informatiques. Alors, comme je te dis, n'est pas la même réalité pour tous les immigrants. Les immigrants qui l'ont venu avec une étude en informatique, bien sûr que passe tout droit. Mais moi, quand je te dis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va passer, parce que malgré que j'ai fait une réorientation de carrière, j'ai fait une attestation d'études collégiales en bureautique, Malgré ça, que j'ai un diplôme ici, que j'ai l'expérience québécoise, toujours il y a un petit accent, une difficulté avec le français. Mettons pour les entrevues, je passe tout bien les entrevues, tout ce qui soit technique, tout ce qui soit connaissant très bien. Mais la partie mise en situation, les logiques sont différentes. Tu comprends? Alors, quand on met une mise en situation, j'ai une logique d'immigrant. Ça veut dire que ce n'est pas la même logique d'ici. Et ça joue aussi pour ma incertitude dans le travail. Toujours, je vais être immigrant. Et pas parce que seulement j'ai d'autres couleurs de peau et d'autres noms de famille, sinon pour que j'ai une vision de travail, de la vie un peu différente. Pas trop différente, un peu différente, mais c'est peu différent, ça change tout. Pendant 4 ans dans le même travail, j'ai montré que j'étais très ponctuelle, très débrouillarde, je savais plein de choses. Je n'avais pas étudié pour rien 4 ans dans l'université. Ça donne une base. Mais ils ont continué à faire les mêmes principes de recrutement pour les secrétariats. La consigne, c'était qu'il n'y a pas d'accent qui ne soit pas québécois. Dans d'autres mots, c'était qu'il ne soit pas des immigrants. On dirait que tout de suite que tu écoutes un petit accent, ça cloche mal dans la tête. Par ça que je te dis, malgré mes formations, je ne suis pas sûre si je vais sortir de cette de situations d'emploi précaire, de l'incertitude, tu comprends, n'est pas trop facile. Pourtant, je me considère une femme très débrouillarde.
Bon, comme on vient de l'entendre, il existe bel et bien des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Mais les inégalités ne se vivent pas que sur le marché du travail. En effet, on observe aussi une répartition inégale du travail non rémunéré, comme le soin aux enfants ou les tâches domestiques, entre les hommes et les femmes. Et puis, comme pour enfoncer le clou, les mesures de conciliation famille-travail génèrent elles aussi des inégalités entre les hommes et les femmes. On a parlé de ces phénomènes-là avec Lorraine Desjardins de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, qui d'emblée nous dit qu'au Québec, on a fait des avancées considérables, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à une réelle égalité dans le partage des tâches non rémunérées.
Même quand, en apparence, le partage des tâches a l'air assez égal puis assez équitable, ben ce qu'on apprend, c'est que la charge mentale est pas mal plus souvent assumée par les mères. C'est-à-dire que, oui, le gars, il en fait des affaires dans la maison, mais les mères ont quand même à initier ou à superviser la chose. C'est-à-dire que c'est elles qui vont penser à qu'est-ce qu'il faut acheter pour l'épicerie. C'est elles qui vont, tu sais, même si le gars va faire à manger, c'est quand même elles qui vont gérer ça. C'est elles qui vont savoir c'est quoi les tâches à faire, qui vont demander même des fois des faire, parce que sinon ça ne se fait pas automatiquement. C'est aussi elles qui vont assurer les liens avec les rendez-vous médicaux, les services de garde, l'école. Les activités culturelles, sportives, c'est aussi les mères là, qui sont majoritairement responsables de ces tâches-là.
Est-ce que la répartition du travail non rémunéré peut avoir des impacts sur le revenu des femmes?
La majorité des emplois où les mesures de conciliation famille-travail sont moins généreuses ou moins présentes, bien, c'est occupé par des femmes. Donc, des emplois au bas de l'échelle qui sont pas syndiqués, les mesures de conciliation famille-travail ne sont pas nécessairement adéquates. Et en plus, comme les femmes gagnent généralement moins que les hommes, ce sont elles qui vont rester plus souvent, plus longtemps à la maison. On l'a dit tantôt avec le congé parental, c'est-à-dire qu'ils vont passer plus de temps à utiliser les semaines de congé parental, mais elle demeure aussi plus longtemps éloignée du marché du travail à cause de ça. Donc, c'est sûr que ça a des impacts éventuellement là, même en bout de ligne, là, sur leur retraite. Puis même quand ils ne sont pas en congé parental, c'est aussi les mères qui vont, quand les mesures de conciliation famille-travail font défaut, c'est elles qui vont sacrifier prioritairement leur temps de travail. C'est-à-dire, s'il manque de place en garderie, ben, comme elles gagnent moins que leur conjoint, ben, c'est leur salaire qui va être sacrifié. Et si, mettons, il y a un enfant qui est malade, ben, c'est elle qui va dire non, non, je vais y aller, je vais m'en occuper. Donc, effectivement, ça a des impacts, là, ce partage inégal-là. Il y a aussi que la conciliation famille travail, quand c'est difficile, quand les deux parents sont là, bien évidemment, je reviens encore avec la monoparentalité, c'est encore plus difficile quand il y a juste un parent. C'est toujours un casse-tête. Si on ajoute à ça en plus ce qu'on appelle la génération sandwich, c'est-à-dire des femmes qui ont des enfants encore à la maison, mais qui doivent en plus s'occuper d'un proche aidant en perte d'autonomie. Est-ce qu'ils sont des proches aidants, je veux dire, puis qui doivent s'occuper d'une personne en perte d'autonomie, bien là, ils sont pris vraiment entre les deux. Puis c'est encore majoritairement des femmes qui s'occupent de ça. En bout de ligne, bien, ça fait qu'ils ont, s'ils perdent du temps de travail, bien, leur avancement, leurs possibilités d'avancement sont moindres. Je l'ai dit tantôt, les programmes de retraite, les régimes de retraite sont moins importants aussi. Non, il y a vraiment un sacrifice qui est fait là, à ce niveau-là. Là.
Quel que soit notre genre, la pauvreté, ça use. Puis souvent, la pauvreté prend des dimensions difficiles à mesurer ou à expliquer en chiffres. Pour mieux saisir ce que ça veut dire au quotidien d'être pauvre, on a rencontré Lux, qui est poète et qui a deux enfants, dont un présente un trouble du spectre de l'autisme. Lux raconte comment la pauvreté a d'une certaine façon clôturé son horizon de possible au quotidien.
Ce que ça veut dire pour moi de vivre en situation de pauvreté tout en élevant des enfants, en fait, c'est qu'il faut que je contrôle certains réflexes dans l'optique de ne pas briser certains rêves ou de créer des barrières dans leur tête qui pourraient les empêcher peut-être de réaliser leur plein potentiel. J'ai un exemple vraiment frappant, je pense. C'est une fois, on se promenait en autobus, j'étais avec ma fille, puis elle a vu l'école Saint-Charles-Garnier. Elle était là, waouh, c'est donc bien beau cette école-là. Puis ça m'a échappé. J'ai dit, ah, mais ça, c'est pas pour nous autres. C'est ça, pour moi, vivre en situation de pauvreté avec des enfants. C'est faire attention à ces paroles-là. Il y en a qui disent, ah, nous, on s'en va en vacances, on s'en va en Angleterre cet été avec les parents ou n'importe quoi, on s'en va en Europe, on va aller voir les monuments, les temples. C'est comme, ouais, ben nous, on va aller les voir sur Internet, on va en apprendre là-dessus, tu sais. Mais on est tout le temps comme limité géographiquement, en n'ayant pas de voiture non plus. Donc, on a un petit carré de la ville à explorer, puis le reste se fait par l'entremise des technologies ou par les photos que les gens nous rapportent, tu sais. Fait que c'est comme si notre monde était vraiment refermé, puis qu'on voyait par procuration, si on veut, le monde autour de nous.
Selon Lux, quand on est en situation de pauvreté, même la notion du temps vient à changer. Tout va comme un peu moins vite.
Le fait d'être en situation de pauvreté pendant longtemps, c'est qu'il y a des réflexes qui se développent de survie plutôt que de vie. Et tout est au ralenti. Parce qu'il y a comme une espèce de conservation d'énergie qui s'installe. Là. Puis c'est comme si c'était une longue hibernation. Donc, bon, OK, là, on a des provisions, on a ci, on a ça. On est comme un peu survivaliste, là, si on veut. Mm. Puis ce que ça arrive aussi, ce qui fait que c'est une hibernation, c'est aussi au niveau de toutes les démarches, les formulaires à remplir pour quoi que ce soit, on dirait que ça devient super angoissant à la longue. Parce qu'à chaque fois, c'est comme, bon, là, tu dis, OK, j'ai pas beaucoup de revenus. Puis là, tu te fais juger un peu, ah ouais, tu sais, Mimi. Ou, tu sais, pourquoi t'as pas fait ça avant? Puis je suis comme, ben, parce que j'étais juste comme en train d'essayer de survivre, tu sais. Fait que, il y a comme ça qui arrive, là, c'est c'est oppressant à la longue de toujours devoir justifier chaque petit sou qu'on fait ou chaque petite chose qu'on fait. C'est ça, être pauvre. C'est que tout est plus long et tout est plus laborieux. Tu es bien plus épuisé après 50 minutes de bus, après l'avoir attendu sur le trottoir. Puis après ça, tu t'en vas à ton affaire, tu fais ton affaire, après ça, tu retournes, tu attends l'autobus, encore une heure de bus. Tu sais, c'est comme ta journée, là, elle a passé pour un Christy de rendez-vous qui aurait pu se faire par téléphone ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que la pandémie a ça un peu aussi comme avantage, c'est qu'on dirait qu'il y a des services qui se sont mis en place pour éviter des déplacements, hein. Fait que ça, je trouve que ça aurait pu être fait avant, tabarouette, mais on dirait qu'il a fallu que quelque chose vienne nuire à des personnes plus riches, là, pour que soudain, là, hey, Caroline, hein, on pouvait mettre ça en place. Finalement, hein, c'était pas si tough.
Comme l'a expliqué Lux, tout est un peu plus compliqué quand on est pauvre. Évidemment, se trouver un logement et payer le loyer, ça fait partie des choses compliquées quand on a un budget serré. Ça reste quand même la plus grosse dépense qu'on a à assumer mois après mois. À ce sujet, on a parlé avec Véronique Laflamme du Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, qui nous explique que les femmes sont particulièrement touchées par les enjeux de logement, entre autres parce qu'elles sont aussi plus nombreuses à vivre des situations de pauvreté.
Les femmes sont plus nombreuses et plus à risque d'avoir des problèmes de logement, de vivre des dénis du droit au logement que les hommes. D'abord parce qu'elles sont plus nombreuses à être locataires, d'une part. D'autre part, évidemment, parce qu'elles sont plus nombreuses à vivre dans la pauvreté et à avoir un revenu plus bas. Par exemple, dans le cas des femmes locataires, il y a des écarts importants de revenus entre les femmes locataires et les hommes locataires. On parle d'un écart de 15 %. Ça représente 6 000 au Québec. Mais dans plusieurs régions, ces écarts-là sont beaucoup plus importants. Par exemple, sur la Côte-Nord, ça va jusqu'à 12 000 d'écart. En Abitibi, près de 9 000 d'écart, 8 500 d'écart au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les femmes sont, comme elles ont revenus moins importants, elles sont plus nombreuses à avoir un problème d'incapacité de paiement. D'ailleurs, les gouvernements et la Société canadienne d'hypothèque et de logement considèrent pour que un logement soit abordable, on ne devrait pas débourser plus de 30 % de notre revenu pour le loyer. Et les femmes, donc, sont plus nombreuses à payer cette part-là de 30 % plus que cette part de 30 % de leur revenu pour se loger que les hommes. Il y a 248 500 femmes au Québec qui sont dans cette situation où elles paient plus de la norme de 30 % de leur revenu pour se loger. Ça devrait être suffisant pour passer à l'action, mais il faut voir le nombre d'entre elles qui paient plus que la moitié de leur revenu pour se loger. On parle de 100 145 femmes. Alors là, quand on paie plus que la moitié de son revenu pour se loger, ça se fait vraiment carrément au détriment de nos autres besoins essentiels. Se nourrir, se déplacer dans plusieurs régions, ce n'est pas une dépense compressible. Se déplacer dans les grandes villes non plus, là, le transport en commun coûte toujours plus cher. Donc, parfois, il faut couper dans les médicaments, dans l'habillage des enfants, etc. Donc, il y a vraiment un trop grand nombre de femmes au Québec qui sont aux prises avec ce problème-là. Et pour vous donner un seul chiffre là, de plus, le revenu médian de ces femmes-là qui paient plus que 50 % de leur revenu pour se loger est de 13 300 $. Donc, on voit vraiment qu'avec ce montant-là dont disposent des milliers de femmes locataires, on peut de moins en moins se loger décemment puisque les prix sur le marché privé augmentent. On n'a qu'à voir dans la dernière année l'explosion du loyer moyen. Les logements qui sont construits par le marché privé coûtent beaucoup plus cher, ce qui fait en sorte que les rares logements disponibles sont hors de prix et hors de la portée, finalement, des femmes qui se trouvent à devoir déménager. Lorsqu'il y a une séparation qui survient, lorsqu'on tente de fuir un conjoint violent, les jeunes qui quittent, dans le fond, le domicile familial pour trouver un logement, les femmes âgées dont le conjoint meurt ou qui vivent seules, qui veulent un plus petit logement, se retrouvent face à ce constat, finalement, qui est un accès à un logement abordable qui est de moins en moins possible.
Est-ce que les femmes immigrantes racisées ou autochtones vivent des difficultés particulières par rapport au logement?
Ben oui, vraiment. D'abord, les femmes locataires en situation d'immigration sont beaucoup plus nombreuses à vivre dans un logement de taille insuffisante, à vivre dans un logement surpeuplé. Alors que c'est le cas de 4 % pour les locataires non-immigrés, c'est le quart, donc 25 % des femmes qui sont responsables là, d'un ménage locataire en situation d'immigration qui vivent dans un logement trop petit. Et ça, ça a des conséquences dramatiques. On le voit d'ailleurs avec la pandémie, vivre dans un logement surpeuplé quand il faut être en télétravail, quand les enfants sont à la maison, c'est invivable. Donc, ça a des conséquences sur la santé physique, mais ça a des conséquences sur la santé mentale. Et la pandémie expose, en fait, la situation intenable de ces personnes-là. Et ce qu'on voit, c'est que comme elles sont d'abord plus pauvres, les femmes, en général, sont plus nombreuses à être à risque de vivre dans un logement surpeuplé parce que c'est tout ce qu'elles peuvent se payer. Et on voit que dans le cas là, des femmes responsables là, de ménages locataires qui sont immigrants, elles sont beaucoup plus nombreuses à vivre dans ces situations-là. Plus largement, les femmes locataires racisées sont plus nombreuses là, donc à vivre dans une plus grande précarité. Quand on est d'immigration récente, ben on doit se loger avec ce qui est disponible sur le marché. Et comme je le disais précédemment, les logements qui sont inoccupés, qui sont disponibles, sont beaucoup plus chers que l'ensemble des logements. Donc, on va se retrouver à consacrer une part beaucoup plus importante de son revenu pour se loger. Donc, les personnes, les femmes qui proviennent de l'immigration récente sont plus nombreuses à payer beaucoup plus cher pour se loger. Et sans parler de la discrimination qu'elles vont rencontrer dans l'accès au logement, parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles n'ont pas de crédit, par exemple. Donc, on sait que même si la discrimination est illégale au Québec, elle est pratiquée, d'autant plus qu'on est dans un contexte de rareté de logement locatif dans la plupart des villes du Québec et que même à Montréal, le taux d'inoccupation a augmenté récemment. Pour les logements abordables, le taux d'inoccupation demeure extrêmement bas, là, à 1,5 %. Donc, dans ce contexte-là de rareté, c'est encore plus difficile de trouver un logement et on fait face à de la discrimination. Et là, les femmes peuvent être souvent, les femmes immigrantes ou racisées vont être doublement et triplement discriminées parce que lorsqu'elles sont chefs de famille, elles vont vivre aussi la discrimination envers les enfants. Plusieurs propriétaires ne se cachent même pas pour demander, pour dire qu'ils ne souhaitent pas d'enfants, qu'ils vont préférer des jeunes professionnels à une famille parce que c'est dérangeant, ça peut poser des problèmes de voisinage, etc. Et le marché privé construit très peu de grands logements. Donc, les femmes immigrantes et les femmes racisées, ainsi que les femmes autochtones, vont vivre une double, voire une triple discrimination, non seulement parce qu'elles sont des femmes, souvent qu'elles ont moins de crédit, parce qu'elles sont chefs de famille. Dans le cas des femmes autochtones, en plus de vivre avec les conséquences désastreuses du manque de logement vécu dans plusieurs communautés autochtones, en milieu urbain, elles vont faire face à la discrimination et il faut dire qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à vivre l'itinérance là, que la population en général. À Montréal, 10 % des personnes en situation d'itinérance sont des Autochtones, alors qu'elles représentent moins de 1 % de la population. Et les femmes sont plus nombreuses, sont en proportion plus nombreuses, les femmes autochtones, à vivre l'itinérance, souvent parce qu'elles vont fuir des situations, notamment de violence. Alors, voilà.
Après avoir entendu ce que Véronique Laflamme du Frappru avait à dire sur les enjeux de logement et de pauvreté vécue par les femmes et des risques aussi de se retrouver en situation d'itinérance, on s'est demandé quel était le portrait de l'itinérance des femmes au Québec. Alors, on a parlé avec Laurie Bacro, qui est organisatrice communautaire, responsable du dossier femmes au RAPSIM, le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Elle nous a expliqué que c'est difficile de faire un portrait de l'itinérance des femmes, notamment parce que c'est un phénomène un peu caché, difficile à mesurer.
Ce qu'on constate, dans le fond, c'est que les femmes vivent majoritairement l'itinérance de façon cachée. Fait que ça va être des stratagèmes qu'elles vont mettre en place pour éviter d'être vulnérables. Fait que, par exemple, elles vont aller prendre des douches dans des piscines publiques, elles vont aller dans les bibliothèques, les cafés, les centres commerciaux, vont aller dormir sur un sofa, chez de la famille ou chez des amis qui peuvent être plus ou moins bien intentionnés par ailleurs, ce qui peut les amener à vivre des situations d'abus divers. Récemment, il y a eu la sortie du rapport sur l'itinérance cachée au Québec, et à l'international qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec. Prochainement, il y a aussi la sortie du deuxième portrait de l'itinérance qui est produit par le M3S avec un volet 4 spécifiquement dédié à l'itinérance cachée et qui font ressortir ces spécificités-là. Même si les organismes qui travaillent avec les personnes connaissent bien ces réalités depuis longtemps, ça reste un phénomène, dans le fond, qui est difficile à renseigner par son caractère même, puisqu'il est caché. L'itinérance cachée, dans le fond, c'est un phénomène qui est vécu aussi bien par les femmes que par les hommes. Mais c'est ça, les femmes, on constate que les femmes vivent majoritairement de l'itinérance cachée.
Est-ce que la pandémie a eu des impacts sur l'itinérance des femmes?
Avec la pandémie, il y a une partie de l'itinérance qui se vivait de façon cachée qui a été mise à jour. La pandémie, les mesures sanitaires ont frappé durement toutes celles qui avaient mis en place ce type de stratégie. Ce qu'on constate, c'est qu'avec le couvre-feu, c'est un autre coup qui est donné. Il y a celles qui subissent des situations de violence. Fait que bien que la ministre Guilbeault ait fait mention d'une mention spécifique pour les femmes victimes de violences, ces femmes-là n'ont pas toujours envie de dénoncer leur agresseur. Elles peuvent avoir peur des représailles, etc. Fait que d'aller se retrouver dans la rue passer 8 heures, c'est problématique, c'est difficile. Fait qu'on a des craintes en fait, qu'elles restent dans des situations de violence, puisque la fuite n'est plus possible. Pour les travailleuses du sexe, c'est le même type de dynamique qui se produit. Elles doivent accepter des rabais, elles doivent passer la nuit chez un client. Fait que tout cela, ça vulnérabilise en fait, énormément les femmes. Bon, ce qu'on a constaté aussi, on a plusieurs ressources d'hébergement d'urgence pour femmes qui accumulent toujours les refus, mais ces refus ont baissé. Alors, les répits du soir, etc., tout ce qui était une alternative pour certaines, sont maintenant difficilement accessibles avec le couvre-feu. Il y a différentes craintes aussi, la crainte d'attraper la COVID, différentes anxiétés en fait, aussi qui sont développées par rapport à tout ce contexte-là. C'est sûr que tout ça, ça crée comme un genre de zone grise avec l'itinérance cachée qui n'est pas couverte par l'exemption du jugement de la Cour supérieure qui a été ordonnée par la juge Chantal Mas pour les personnes en situation d'itinérance qui peuvent être dans la rue en fait, passer 20 heures. Bon, on soupçonne en fait d'ailleurs la baisse de la fréquentation des ressources d'urgence que les femmes restent dans des situations qui les mettent à risque, puis qui rendent la vie, semble alléger la vie temporairement, mais qui les vulnérabilise aussi en fait davantage. Là, ce qu'on voit, notamment à travers les mesures hivernales, c'est le développement de grandes ressources mixtes. C'est problématique en fait, les ressources spécialisées dans le fond en itinérance des femmes. Le dénonce en fait depuis longtemps le fait que les femmes puissent se retrouver dans la file d'attente avec leur agresseur, qu'il n'y ait pas toujours des portes d'entrée séparées, quand elles vont sortir fumer une cigarette. Tout ça, ça peut être des repoussoirs en fait pour les femmes d'aller dans ce type-là de structure. Il y a aussi que les ressources qui sont spécialisées en itinérance des femmes, ces ressources-là visent à leur permettre de se déposer, de retrouver confiance en elles. Il y a tout un travail pour favoriser l'autonomisation, la reprise de pouvoir aussi sur leur vie. Fait que, il y a un débordement de ces ressources-là d'hébergement et qui demande depuis des années l'élaboration de nouvelles structures. En partenariat avec les ressources communautaires pour femmes, fait comme je vous ai dit, des ressources non mixtes, un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des intervenantes spécialisées. Ce qui est demandé, en fait, c'est que la reconnaissance de la violence vécue par les femmes en situation d'itinérance, de leur dureté, de leur vécu, de la complexité aussi des problématiques dont elles sont porteuses, dans un contexte qui est systémique. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont mises à l'avant, dans le fond, c'est d'une part toujours dans la prévention, d'être capable de développer des moyens à la prévention de l'itinérance, de valoriser une approche globale, diversifiée, un continuum de services pour réfléchir, élaborer les projets, trouver des solutions à l'itinérance des femmes, mais qui permettent aussi de les inclure en fait dans le processus, qu'il y ait davantage de financement, de ressources, de possibilités en fait d'ouvrir des lieux d'accueil dédiés aux femmes. C'est ça, que le gouvernement, la ville soient capables en fait, de rentrer en collaboration avec les ressources spécialisées pour les femmes, puis développement de ressources qui passent autant par du logement transitoire pour justement leur permettre de solidifier en fait les acquis qu'elles ont eus dans la reprise de pouvoir sur leur vie. Puis cette autonomie-là en fait qui se redéveloppe au fil d'un long processus et la mise en place de projets en fait aussi en hébergement permanent qui soient adaptés, sécuritaires pour les femmes et abordables aussi.
Les propos de Laurie Bacrot du RAPSIM nous ont rappelé une revendication du FRAPRU que Véronique Laflamme présentait comme une revendication féministe, celle de construire des logements sociaux.
Au FRAPRU, on demande un grand chantier de logement social parce que ça, notamment parce que ça permet aux femmes de se loger décemment, d'avoir un logement où elles vivent dans la sécurité, dans la dignité, à un prix qu'elles peuvent se payer. Et il faut savoir qu'au Québec, les femmes sont grandement majoritaires parmi les locataires de tous les types de logements sociaux. Elles représentent 72 % des principaux soutiens financiers des ménages qui résident en HLM, par exemple. C'est aussi le cas dans les coopératives d'habitation où elles sont 63 %. C'est aussi le cas dans les coops d'habitation et les OSBL d'habitation où elles représentent plus de 6 locataires sur 10. Donc, on peut dire que le logement social, c'est une politique sociale féministe puisqu'il répond en grande partie, hein, en majorité, aux besoins des femmes qui sont, comme on a pu le voir, le plus nombreuses à avoir des besoins urgents d'un logement.
Pour mieux comprendre les effets bénéfiques d'accéder à un logement social, on a discuté avec Monique, qui reçoit des prestations de solidarité sociale, un des programmes de l'aide financière de dernier recours, et qui habite un HLM, une habitation à loyer modique. Elle nous a d'abord expliqué pourquoi ça peut être difficile de trouver un logement quand on est une femme.
Bien, tout dépendamment, si par exemple tu es mère monoparentale ou tu as des enfants, bien, c'est difficile. Souvent, parce que tu as des enfants, ben c'est pas accepté ou on te refuse le logement parce que tu es mère monoparentale ou tu as plusieurs enfants. On dirait que les propriétaires ont peur de louer pour les mamans, surtout les mamans. Quand tu es une personne seule, c'est peut-être moins difficile, mais tu as quand même des problématiques par rapport au coût, par rapport aux endroits, par rapport au lieu où ce que c'est situé. Parce que quand tu es une personne seule, souvent, tu vas essayer de te chercher un logement dans des endroits où c'est que c'est à proximité, soit des épiceries ou des banques, proche d'un arrêt d'autobus surtout, parce que tu as peur le soir de prendre l'autobus quand tu es tout seul. Moi, en tout cas, c'est ma crainte à moi. Fait que je m'essaye toujours de m'organiser pour qu'il y ait un arrêt d'autobus pas loin de chez moi parce que j'ai peur de sortir toute seule le soir.
Monique, tu as fait ta demande pour accéder à un logement social et tu as dû attendre quelques années avant d'y accéder. Comment ça s'est passé quand tu as enfin eu une place en HLM et puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie?
J'ai reçu un téléphone me demandant d'aller visiter un loyer. Mais c'était un studio. Ça, c'est mon premier logement que j'ai eu en HLM. Un petit studio avec salon, cuisine ensemble, là, puis tout ça. Puis j'ai été habitée dans les grosses tours à Bardi. C'est là que j'ai eu mon premier HLM. Puis quand je suis arrivée là, j'étais contente parce que ça m'a aidé beaucoup. Parce que quand tu payes dans ce temps-là, je payais, je pense que c'était 345 de loyer. Puis que l'aide sociale était à, si je ne me trompe pas, était à 500 quelque chose, 400 quelque chose dans ces années-là, là. J'arrivais pas, puis c'était pas facile. Fait que quand j'ai eu mon HLM pour la première fois, j'étais contente parce que là, je pouvais me permettre un petit peu plus d'épicerie. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Fait que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup, beaucoup aidé. C'est plus facile pour moi d'arriver un petit peu plus. Ça me permet un petit peu plus de lousse.
Qu'est-ce que tu fais avec ce lousse-là?
Bien, je m'achète à manger. Des fois, je vais peut-être me gâter un petit repas au restaurant, mais très minime, là, parce que, pas dire comme on dit, c'est pas. on ne roule pas sur l'or, mais ça fait du bien un petit peu. Ça peut aider ou je le mets de côté. Puis s'il m'arrive quelque chose ou un pépin, ben, je sais que j'ai un petit peu de sous mis de côté pour les petits pépins.
Et pour toi, Monique, ça veut dire quoi vivre en situation de pauvreté?
Pour moi, le mot pauvreté, c'est quelqu'un qui essaye du moins, du mieux qu'il peut de vivre ou de survivre, parce que souvent, c'est ça qui est le cas. Moi, dans mon entourage, je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu moins que moi, puis je le sais qu'ils ont la tête dans l'eau, ils n'ont pas la tête hors de l'eau parce qu'ils ont de la misère à arriver, puis c'est difficile. Il ne faut pas qu'il t'arrive de pépins, parce que si tu as des pépins, ben c'est là que tu te rends compte que la pauvreté, ça l'aide pas. Puis pourquoi, comment je pourrais dire, les préjugés, ben parce que tu es une personne à l'aide sociale, par exemple, dès que tu prononces ce mot-là, on dirait que les gens ont peur de toi parce que tu es une personne qui est à l'aide sociale. Au lieu d'essayer de comprendre ton histoire de vie ou ton parcours de vie, souvent, la pauvreté va venir de là. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé, puis elle a perdu son emploi, puis elle se retrouve du jour au lendemain à l'aide sociale. Bien, on dirait que les gens, ils croient pas à ça, t'sais, que ça n'existe pas. Mais pour moi, le mot pauvreté, c'est ça. C'est quelqu'un qui a de la misère à arriver, qui doit toujours se soucier, qui a un budget fait, qui est fait, là, loyer, épicerie, assurance, compte de téléphone, compte de câble. Moi, j'ai déjà fait ça une fois, puis j'étais mal à l'aise, mais j'ai dû le faire pour montrer à mon agent d'aide sociale que j'arrivais pas, puis que j'avais vraiment besoin d'aide. Puis quand t'es serré, puis t'es pogné à la gorge, puis tu dois choisir entre t'acheter une passe d'autobus puis manger, c'est pas évident.
On dit souvent que la situation est pas si pire que ça au Québec pour ce qui est des inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai qu'il y a des avancées considérables qui ont été faites depuis quelques décennies. Mais force est de constater qu'il y a encore du chemin à faire pour refermer les écarts qui existent entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Comme on a pu l'entendre, le parcours des femmes n'est pas le même si elles sont immigrantes, autochtones, racisées, en situation de handicap ou issues d'une minorité sexuelle ou de genre. Il y a aussi beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à une société sans pauvreté. Et comme on l'a entendu, plusieurs des mesures qu'on pourrait mettre en place au Québec pour lutter contre la pauvreté aurait des impacts positifs sur la situation des femmes, mais aussi sur la situation des hommes et sur la société en général. Par exemple, quand on augmente le salaire minimum, ça aide majoritairement les femmes parce qu'elles sont plus nombreuses à occuper des emplois au bas de l'échelle. Mais évidemment, ça aide aussi les hommes qui occupent ce type d'emploi. En somme, tout le monde y gagne. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre outil « Femmes, inégalité et pauvreté » disponible sur le site Internet du collectif et sur sa page Facebook, ou communiquer avec le collectif pour en commander des versions imprimées. Notez que l'outil est superbement illustré par l'artiste Mathilde 5 Mars. N'hésitez pas à prendre part aux activités qui se dérouleront un peu partout au Québec pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Et d'ici à ce que la pandémie se termine et nous permette de nous rassembler dans la rue pour revendiquer les droits des femmes, on vous invite à partager ce balado. On en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont généreusement contribué à la réalisation de ce balado et on vous souhaite un bon 8 mars.